Bonjour frères et sœurs, toujours content de nous retrouver dimanche après dimanche, célébrer notre Dieu et écouter sa parole, de laisser nous instruire. Je vous propose ce matin de réfléchir sur un texte tiré du livre d'Apocalypse, au chapitre 1, les versets 19 et 20, et ensuite nous prendrons d'autres versets au fur et à mesure. Apocalypse chapitre 1, versets 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Amen. Frères et sœurs, le thème de mon message ce matin s'intitule « À celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. Alors, j'aimerais faire un bref témoignage et ensuite un rappel de ce qu'on a entendu les deux derniers dimanches. Vous savez, frères et sœurs, quand j'ai commencé le ministère ici, en 2015, je suis en train de me dire, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir prêcher dimanche après dimanche? C'était un souci pour moi au début. J'ai dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir parvenir? Parce que là, je suis vraiment dans le bain. Il va falloir assurer dimanche après dimanche. Et c'était pour moi un sujet de préoccupation et donc un sujet de prière. Je me suis adressé plusieurs fois au Seigneur et il m'a répondu en disant ceci, tant que tu ne cesseras de t'appuyer sur moi, tant que tu compteras sur moi, je t'assure que cela sera possible. Et depuis là, en tout cas, je ne cesse de m'appuyer sur le Seigneur. Je ne cesse de me confier sur le Seigneur et je vous assure que je vois la main de Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu me conduire, m'inspirer pour pouvoir apporter un message dimanche après dimanche. Et aujourd'hui, c'est parce que les messages que nous enregistrons, que nous mettons sur le site, il y a même ceux qui sont hors de l'Église qui les écoutent et il y en a qui sont appelés à nous rejoindre, qui nous ont rejoints d'ailleurs en écoutant ces messages. Ça veut dire que ça nous bénit, mais ça bénit aussi les gens qui sont extérieurs à l'Église. C'est pour moi un sujet de témoignage. Alors, je le dis pourquoi. Je fais ce témoignage parce que quand j'ai repris juste après mes congés, là, le dimanche 3, j'ai apporté un message, en tout cas sur la base du livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le thème du dimanche 3, c'était la victoire sur trois ennemis. Mais j'étais loin de savoir qu'en réalité, c'était une série de prédications que le Seigneur voulait que j'apporte sur la thématique de la victoire. Dans tout le mois de septembre, nous allons parler de la victoire, en nous appuyant sur le Christ, bien entendu, et pas le dimanche du 1er octobre, notre journée de rentrée, mais probablement les deux autres dimanches aussi d'octobre. Nous resterons sur cette dynamique de la victoire. Donc, je disais qu'un rappel si à ce sujet, le dimanche 3, le thème c'était la victoire sur trois ennemis. Pour l'ennemi qui est le péché, il y a le sang de Christ qui nous donne la victoire. Pour l'ennemi qui est le moi, il y a la croix de Christ qui nous donne la victoire. Et pour l'ennemi qui est Satan, évidemment, il y a le trône de Christ qui nous donne la victoire. Ces trois choses sont suffisantes, je dis bien suffisantes, pour répondre à tout ce que nous pouvons rencontrer. Elles sont contenues dans le verset que je viens de lire. Le sang de l'agneau est naturellement le sang de Christ. La parole de leur témoignage fait allusion au trône de Christ. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Renvoie évidemment à la croix. Il faut mourir à la croix. Alors, le dimanche dernier, donc, le 10, nous avions poursuivi sur le thème de la victoire sur ces trois ennemis. Et là, nous nous sommes posé la question suivante. Mais qui sont les vainqueurs? Puisqu'on parle de la victoire, mais qui sont les vainqueurs? Et on avait répondu à cette question en disant que les vainqueurs, en fait, sont des conquérants. Les vainqueurs sont des conquérants. Ils sont tous à la conquête. Ils sont à la conquête des cités, ils sont à la conquête des villes, ils sont à la conquête des nations, selon que Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. L'Église, c'est une nation dans une nation. L'Église en France est une nation, selon la Bible, mais une nation dans une nation qui est la France. Et l'Église, en tant que nation, doit influencer la nation, doit influencer les nations. Il faut aller à la conquête des nations. Souvenez-vous de quelqu'un qui s'appelle Daniel dans la Bible, qui s'est retrouvé dans une nation païenne. Il a influencé la nation païenne. Il n'a pas fléchi ses genoux devant le roi païen, au point le roi a réalisé que Daniel et ses amis, d'ailleurs, priaient le vrai Dieu. Joseph s'est retrouvé en Égypte auprès de Potiphar. Joseph est devenu premier ministre. Mais pourquoi? Parce que, justement, Joseph a influencé la nation égyptienne. L'Église est appelée à conquérir les cités, les villes, les nations. Et je disais aussi que les vainqueurs, ce sont des croisés terrestres. Nous ne sommes pas simplement des humains. Nous sommes des humains et des divins. Nous sommes un mélange d'humains et de divins. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous des êtres célestes. La Bible dit que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas que simplement des humains, mais nous sommes des croisés célestes, des humains et des divins. Nous croyons que Jésus est plus puissant que le péché. Nous croyons que Jésus est plus puissant que Satan. Et nous croyons que Jésus est plus puissant que le moi. Nous avons dit que pour une église qui connaît la défaite, la solution que Dieu a prévue, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul. Il y a un principe, bien aimé, dans les manières de Dieu de faire, qu'il nous faut connaître impérativement. Et le livre d'Apocalypse, dans son intégralité, témoigne de ce principe. C'est le suivant. Chaque fois que l'Église est en déclin, chaque fois que l'Église est dans la défaite, chaque fois que l'Église est dans la compromission, Dieu n'a qu'un seul remède. C'est d'apporter une fraîche révélation et une nouvelle vision de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à son apôtre Jean à l'île de Patmos. Frères et sœurs, vous voyez que constamment Dieu nous recentre, Dieu veut nous recentrer sur son Fils, mais parce que nous n'avons besoin que d'une seule chose. D'après Luc chapitre 10, au verset 42, concernant justement l'attitude de deux femmes, de Marie et de Marthe, il est dit dans ce verset qu'une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Et Marie est celle qui avait choisi la bonne part, dit le texte, qui ne lui sera jamais enlevée, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus dans votre cœur, personne ne peut vous l'enlever. Et vraiment, personne. Les vainqueurs, frères et sœurs, sont ceux qui voient Jésus tout à nouveau et d'une façon renouvelée. Les vainqueurs, ils regardent et ils gardent constamment la vision céleste devant leurs yeux. Quand nous voyons un Christ qui grandit sans cesse et qui est destiné à remplir toutes choses, alors nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés de notre petitesse et nous sommes délivrés aussi de ce que j'appelle l'étroitesse, un peu de notre esprit. Bref, les vainqueurs sont ceux-là qui manifeste la seigneurie de Christ dans tous les domaines de leur vie. Et ils s'appellent les disciples de Christ. Ils reçoivent l'enseignement de Jésus, ils marchent sur les pas de Jésus, ils agissent comme Jésus. D'ailleurs, c'est le but de une autre journée dans notre église, parler du discipulat, commencer une formation sur ce que c'est être disciple de Christ. C'est un sujet qui est très important. Avoir le caractère de Christ. Si Joseph a pu influencer les gens en Égypte, c'est parce qu'il avait le caractère. C'est le caractère de Christ qui nous permet d'influencer les nations, d'amener les nations à Christ. Il faut ressembler à Christ. Alors, aujourd'hui, le thème, je disais, de mon message s'intitule « À celui qui vaincra ». Voyez, cette expression est citée sept fois aux sept églises d'Asie mineure dans le livre d'Apocalypse. Frères et sœurs, la lecture de la Bible nous permet de constater la réalité selon laquelle la vie chrétienne, la vie à laquelle Christ nous a appelés, la vie chrétienne normale est une vie de vainqueur. Dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu n'a pas établi un groupe de personnes qualifiées d'élite, de super spirituels, qui sont au bénéfice d'une onction particulière ou d'une puissance spéciale. Certains croient que les vainqueurs sont une classe spéciale de gens qui se lèveront et exerceront une grande autorité sur les royaumes terrestres de ce monde, y compris sur leurs frères et sœurs, on va dire ça comme ça, spirituellement immatures. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, car chaque croyant, je dis bien chaque croyant, qu'il le sache ou non, est déjà complet, est déjà béni, dit la Bible, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Chaque chrétien, je prie que Dieu ouvre les yeux de notre cœur pour voir que le dessein de Dieu pour les vainqueurs n'est pas d'établir un royaume terrestre, mais d'élargir et de faire grandir un royaume spirituel, mais un royaume qui est encore caché en chaque croyant, caché en nous, et qui n'est visible que par les yeux de l'Esprit. Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, mais les gens se disaient, mais où est ce royaume? Il était en lui, il était caché en lui, il fallait le voir à travers les yeux de l'Esprit. Ce n'est pas un royaume terrestre, car il n'est pas de ce monde. Souvenez-vous, quand Jésus s'est rendu compte que les gens voulaient le prendre pour faire de lui un roi terrestre, il les a quittés et s'est isolé sur la montagne. Quand Pierre lui a tiré son épée, Jésus lui a dit de la ranger. Ces exemples démontrent clairement que vaincre, frères et sœurs, dont on parle, est une réalité spirituelle, une réalité céleste. Il ne s'agit pas de quelque chose qui doit se réaliser et s'accomplir de façon terrestre. Le dessein de Dieu est que Christ remplisse toutes choses, en commençant d'abord par chaque disciple que nous sommes. Ensuite, en passant par l'Église, qui est quoi? Qui est la somme des disciples, qui est la synthèse, l'association, l'assemblée des disciples. Et enfin seulement, il pourra restaurer les nations de ce monde et la création tout entière. Ça commence par nous, ça commence par l'Église. Nous passons trop de temps à essayer de changer les choses autour de nous pour les autres, au lieu d'apprécier d'abord ce que Dieu a fait et continue de faire à l'intérieur de nous. Je vous ai souvent parlé de l'être et ensuite le faire. Il faut d'abord chercher à être. Il faut chercher à grandir dans le caractère de Christ avant de vouloir faire. Mais très souvent, nous nous lançons assez rapidement dans le faire au lieu de cultiver d'abord l'intimité et le caractère avec Christ, le caractère de Christ, pardon. Chaque enfant de Dieu devrait être une démonstration vivante. Je dis bien une démonstration vivante de la manière dont Dieu amène toutes choses à la seigneurie de Christ. Le monde, les principautés, les autorités, les dominations et la création elle-même devraient être en mesure de voir dans l'Église une préfiguration de ce à quoi ressemble la vie quand Christ est tout et en tous. Oui, évidemment, nous savons que ce qui existe aujourd'hui n'est pas la vérité par rapport au dessein de Dieu. La Bible dit que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ. Il n'en demeure pas moins que nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient effectivement soumises. Nous ne voyons pas encore cela. Si nous regardons d'une façon extérieure, l'Église, le monde et la création, nous ne voyons pas la suprématie de Christ dont parle la Bible. Nous ne la voyons pas non plus. Nous la voyons difficilement bien plus. Quand nous examinons nos propres vies, est-ce que vraiment c'est visible que Christ règne dans nos vies? Jésus est-il réellement Seigneur? Dieu est-il réellement souverain? Alors assurément, oui. Bien entendu, c'est une chose progressive. Il ne prend pas tout d'un coup le contrôle de l'univers. Notre Dieu, il ne prend pas aussi pas tout d'un coup le contrôle de la vie de ses disciples. Les enfants de Dieu ne naissent pas pleinement mûrs. Et Jésus ne bâtit pas non plus son Église en un jour. Au lieu de cela, il travaille. Il travaille lentement, mais presque invisiblement, imperceptiblement, élargissant au fur et à mesure l'espace de son royaume, dirigeant avec douceur, se révélant lui-même petit à petit par des centaines de petites choses où on peut voir Dieu à l'œuvre. Alors maintenant que nous avons identifié le rôle et les caractéristiques des vainqueurs, il est intéressant à ce stade, frères et sœurs, d'analyser, d'examiner les différentes promesses à celui qui vaincra. Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles, les sept chandeliers sans les sept églises. Nous sommes, frères et sœurs, pour certains en tout cas, familiers avec les sept églises d'Asie. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ces églises sont sept car c'est un nombre représentatif. Premièrement, elle symbolise ces églises, sept types de croyants que l'on peut trouver dans l'église à un moment donné. Deuxièmement, elle représente sept époques distinctes de l'histoire de l'église. Troisièmement, et de façon évidente, elle représente sept assemblées réelles qui existaient à l'époque où Jean écrivait sa lettre. Ce n'étaient pas sept lettres distinctes, chacune cachetée dans une enveloppe et apportée à chaque église individuellement. Nous savons d'après Apocalypse chapitre 1, verset 11, que ce livre était une lettre. Le livre d'Apocalypse était une lettre ouverte qui avait été écrite et envoyée à chaque église, la même lettre à chaque église, et qui contenait donc aussi le reste de la vision. De ce fait, donc, un croyant d'Éphèse savait ce que le Seigneur disait à Philadelphie. Un croyant de Laodicée connaissait ce que Christ pensait pour l'église de Smyrne et ainsi de suite. Chaque assemblée était incomplète sans l'autre. Ces églises avaient beau être distinctes, elles n'en étaient pas pour autant isolées. Et en chacune de ces églises, nous voyons une pièce, en quelque sorte de puzzle, mais nous ne voyons pas l'ensemble de l'image avant de les avoir réunies, en tout cas toutes ensemble. À chaque église, Jésus dit, je connais tes œuvres, bonnes, mauvaises ou mitigées, je connais tes œuvres. Il dit par cette fois, je connais tes œuvres. Il marche au milieu et observe. Et par cette fois, il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Le Seigneur appelle encore aujourd'hui des vainqueurs. Le Seigneur est encore aujourd'hui à la recherche des vainqueurs. Et les promesses à côté des avertissements sont tout aussi valables pour nous aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque pour eux. Alors, nous allons donc regarder chacune de ces promesses et je prie que le Seigneur puisse nous réveiller en quelque sorte et nous attirer. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, il est dit « À celui qui vaincra ». Première promesse. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Apocalypse 2, verset 7. Alors, j'ai appelé cela des promesses. « À celui qui vaincra, je donnerai des promesses. » Mais il serait préférable de parler, au fond, des évidences. C'est tout à fait différent. Nous avons tendance à considérer une promesse comme une chose future, quelque chose qu'il faut attendre. Je préfère le mot évidence parce que si quelque chose est évident dans ma vie, cela démontre que cette chose m'appartient déjà. C'est évident, elle est à moi. Le Seigneur dit que si nous vivons comme des vainqueurs, c'est un problème de comportement. C'est un problème de mentalité, un problème de caractère. Si nous vivons comme des vainqueurs, nos vies seront caractérisées par certaines évidences. Certaines évidences. Grâce à elles, grâce à ces évidences, nous savons qui sont les vainqueurs. Et par la même occasion, nous savons aussi si nous vivons réellement la vie chrétienne normale, qui est une vie de victoire. La première évidence est que les vainqueurs mangent de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Alors là, nous sommes immédiatement ramenés au livre de la Genèse. Et voyons qu'à l'origine, Adam a été chassé du paradis de Dieu. Il n'a pas eu accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie, d'ailleurs, était gardé par des anges armés d'une épée flamboyante, d'après Genèse chapitre 3, verset 24. Parce qu'Adam a mangé de l'arbre de la connaissance, Dieu lui a interdit de manger de l'arbre de vie. Nous devrions voir que Christ a fait plus que simplement restaurer ce qu'Adam avait perdu. Il va bien au-delà d'Adam, offrant au vainqueur le fruit de l'arbre de vie, un fruit qu'Adam ne connaissait pas. Évidemment, c'est un langage symbolique, mais que nous enseigne-t-il ce langage? L'arbre de vie représente quoi? Mais l'arbre de vie représente la croix. L'arbre de vie représente la croix parce que sur ce bois, le Seigneur a donné, il a donné sa vie pour nous tous sur la croix. Les vainqueurs ont appris que l'abondance de fruits et de vie découle de la mort. De la mort à nous-mêmes, de la mort à notre égocentrisme, de la mort à notre moi. Et c'est le sens de la croix. Nous devons mourir à nous-mêmes, à la croix. La croix est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. De la même manière qu'Adam, nous pouvons choisir de manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais nous ne pouvons pas manger les deux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Adam a chuté quand il a cédé à la chair et s'est soumis à son moi. Il a rejeté l'arbre de vie en préférence à quelque chose qui, en tout cas pour lui, il disait que c'était bon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui attirait les regards, c'était plaisant, c'était désirable. Mais la croix, quant à elle, frères et sœurs, ne ressemble pas du tout à un arbre de vie. Ce n'est ni bon, la croix. Ce n'est ni plaisant, ni désirable, la croix. Cela ressemble à la mort. Quand tu acceptes d'aller à la croix, ça veut dire que tu acceptes d'aller à la mort. Mais en réalité, la vie est toujours cachée dans la mort. Toujours. C'est peut-être pour cela qu'Adam n'en a pas mangé de prime abord. Mais l'objectif de Dieu n'est pas justement la mort, quelles que soient les apparences. L'objectif de Dieu, c'est la vie à travers la mort. c'est-à-dire la résurrection, la vie en passant par la mort. Manger du fruit de l'arbre de vie, c'est se glorifier de la croix de Jésus-Christ et trouver la vie à travers la mort. Loin de moi, disait Paul, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 14. De nos jours, la prédication de la croix commence à devenir de plus en plus populaire avec les réseaux sociaux. Mais combien on mange le fruit? Combien? Voyons-nous réellement la croix comme l'arbre de vie? Et sommes-nous vraiment en train de manger 200 fruits? Nous reconnaîtrons un disciple du Seigneur, non à ses paroles, mais à ses fruits. Toujours à ses fruits. Matthieu chapitre 7, verset 20. Et la croix est l'arbre de vie qui produit ses fruits. Après l'arbre de vie, vient la couronne de vie. Sois fidèle, Apocalypse 2, verset 10 à 11. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc la deuxième évidence du vainqueur est la vie de résurrection. Ceux qui possèdent cette vie de résurrection n'auront pas à souffrir la seconde mort. Non. Alors qu'est-ce qu'exactement la vie de résurrection? C'est une vie qui est passée justement par la mort, au travers de la croix. Mais parce qu'elle est déjà passée par la mort, elle ne peut pas, ou elle ne peut plus mourir à nouveau. Quand la mort est vaincue, évidemment, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus d'ennemi. Et la seule façon de vaincre la mort, c'est de mourir. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, il faut mourir à la croix. C'est la seule façon de vaincre la mort. Pour parler de façon pratique, la vie de résurrection peut être vue dans nos actions et dans nos paroles. Je disais dans nos actions quotidiennes et dans nos paroles. Quand certaines personnes parlent, vous avez en quelque sorte un sentiment de mort. Leurs paroles n'apportent pas la vie. Au lieu de cela, vous ressentez un sentiment de vide et de creux quand vous les entendez. Les mots peuvent sembler corrects, mais il n'y a pas de vie dans ce qu'ils disent. Il n'y a ni esprit, il n'y a ni vie. D'un autre côté, il y a des frères et sœurs qui sont naturellement très enthousiastes, intrépides, doués, talentueux, que sais-je encore, et persuasifs. Ils semblent extrêmement vivants, remplis de vie. Mais malheureusement, ce n'est pas la vie de résurrection pour autant. Pour quelle raison? Ils ne sont pas passés par la croix. Ils ne sont pas passés par la mort. Vous ne pouvez pas être ressuscité tant que vous n'êtes pas mort. Impossible. Ce qu'ils font ne porte pas l'empreinte de la croix. Ils n'ont jamais été brisés. Ils ont beau être naturellement doués dans tout ce qu'ils font pour le Seigneur, ils ne sont pas encore passés par la croix, par la mort. Extérieurement parlant, ce qu'ils font peut ressembler très bon, mais le problème n'est pas de faire le bien par opposition au mal. Le problème, c'est d'avoir la vie et de la transmettre par opposition à la mort. Il faut avoir la vie. L'apôtre Paul dit qu'il meurt chaque jour. Qu'il meurt chaque jour pour que la vie du Seigneur soit manifestée. 1 Corinthiens 15, verset 31. Ainsi, la couronne de vie, frères et sœurs, est pour ceux qui perdent leur vie quotidienne pour gagner celle de Christ. Les vainqueurs ne peuvent pas souffrir la seconde mort parce qu'ils sont déjà morts, pas une fois, mais des milliers de fois. Prenons leur croix donc chaque jour, reniant leur moi et vivant pour le Seigneur. Ainsi, l'appel le plus élevé, frères et sœurs, l'appel le plus élevé n'est pas de prendre notre vie, de perdre, pardon, notre vie physique en tant que martyr, Mais la peine le plus élevée, c'est d'abandonner notre propre vie, notre moi en tant que disciple. Nous pouvons perdre notre vie physique en un instant, mais prendre la croix de Christ chaque jour, voilà le vrai test. La croix chaque jour, le vrai test, et voilà le plus difficile. Cela implique que nous soyons fidèles jusqu'à la mort, comme lui a été fidèle. C'est le secret des vainqueurs. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. La manne cachée. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, verset 17. Troisième évidence. On trouve ici, en fait, deux évidences de plus qui caractérisent un vainqueur. La manne cachée et le caillou blanc sur lequel figure un nom secret. Un nom secret. Avant de décrire ces deux éléments, remarquons d'abord que la manne est cachée. La manne est cachée et que le nom lui-même aussi est secret. Bien-aimé, le Seigneur est à l'œuvre. Que nous le voyons, que nous ne le réalisons pas. Le Seigneur est à l'œuvre. Mais cette œuvre est pour une large part cachée et secrète. Si nous sommes toujours à la recherche de quelque chose qui puisse être accompli au vu et au su de tous, bien-aimés, alors nous passerons à côté du fait que Dieu accomplit ses œuvres les plus profondes, bien au-dessous de la surface, vraiment au-dessous. Il est à l'œuvre de façon cachée et secrète. Alors, qu'est-ce que donc la manne cachée? La manne, frères et sœurs, était le pain descendu du ciel et qui a nourri Israël dans le désert. Vous vous rappelez que le Seigneur leur avait ordonné de verser un peu de cette manne dans un pot en or et de le déposer dans l'arche comme un témoignage permanent. D'après Exode chapitre 16, verset 33, repris dans le livre d'Hébreu. Bien des siècles plus tard, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé de ce pain, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra, dit-il, éternellement. » Jésus est le Christ caché, la manne cachée, le Christ caché, apportant la sagesse cachée, représentée par la manne cachée, préservée pour toujours dans l'arche de témoignage. Quand nous parlons, frères et sœurs, sommes-nous juste en train d'apporter un message ou une parole? Ou apportons-nous le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Les vainqueurs mangent la manne cachée et touchent directement à Christ. Ceci est mon corps. Nous mangeons la manne cachée et nous touchons directement le corps de Christ lui-même. La différence entre la personne de Christ et un enseignement à propos de Christ est la différence qui existe entre la manne cachée et la manne ordinaire qui rapidement sera rongée par les vers. Que représente le caillou blanc? D'après les temps anciens, le juge rendait son verdict en tendant à l'accusé soit un caillou blanc, donc symboliquement qui signifie un acquittement, soit un caillou noir, symbole de condamnation. Pardon. Le caillou blanc représente la vie et le caillou noir représente la mort. Le caillou blanc signifie non coupable et le caillou noir signifie coupable. Alors loué soit Dieu de ce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Tout le monde peut facilement citer ce verset, mais tout le monde ne peut pas réellement l'apprécier. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien aimé, la religion nous condamne encore et nous charge de lourds fardeaux et d'un joug difficile sur nos épaules. La religion. Mais le Seigneur dit non coupable. non coupable. Puisque le Fils vous a franchi, vous êtes donc réellement libre. C'est l'héritage de tous les saints. Mais c'est démontré réellement dans la vie des vainqueurs. En même temps que ce caillou blanc, les vainqueurs reçoivent un nom nouveau que personne ne connaît. Notre berger, dit la Bible, appelle chaque brebis par son nom et nous dirige lui-même. Jean chapitre 10, verset 3. Le Seigneur désire changer notre nom, non seulement pour marquer un nouveau commencement, mais pour exprimer de façon plus précise que nous sommes devenus à ses yeux précieux, que nous lui appartenons. Abraham est devenu Abraham, le père d'une multitude. Jacob est devenu Israël, le père des 12 tribus d'Israël. Simon est devenu Pierre, un pilier dans la première église. Saül est devenu Paul, l'évangéliste des nations, l'apôtre des nations. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, est proche et cher du cœur de Dieu, unique dans son dessein. C'est pourquoi il donne à chacun d'entre nous un caillou blanc et un nom nouveau. Mais ce nouveau nom est secret. Personne ne la connaît à part vous et lui-même. Cela nous parle évidemment d'intimité. Cultivons cette intimité avec le Christ. Quand vous méditez les Écritures à propos de la façon dont les vainqueurs vont vaincre le dragon dont il est question, c'est tellement merveilleux que vous avez l'impression qu'il en sera ainsi que dans le futur. Mais si le Seigneur se révèle lui-même à vous, vous allez réaliser en fait qu'il n'est pas un Dieu que du temps futur. Il est Emmanuel, donc Dieu avec nous dans le passé, dans le présent et dans le futur. De ce fait, n'importe qui pourrait vaincre après avoir visité le ciel, en esprit bien entendu, vu les anges parler avec Jésus face à face et avoir été revêtu de son corps spirituel par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Bien aimé, la victoire dont on parle, pour terminer, est un homme. La victoire est un homme et non une expérience. La victoire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est sorti vainqueur du tombeau. La victoire, c'est Jésus. Il faut l'avoir revêtu, lui, le Christ, pour avoir la victoire. Nous pouvons vivre des expériences qui confirment cela, mais les expériences ne sont pas la victoire. La victoire, c'est un homme. Si vous devez chuter une centaine de fois pour apprendre cette leçon, eh bien, cela vaut la peine. Peu importe que vous le compreniez, l'approuvez, le croyez ou le voyez, certes, tout semble affirmer le contraire à vous deux. Mais vous verrez que la victoire, la grâce, la force, la paix, l'amour, la lumière et la vie ne sont pas des choses. Elles sont Christ et rien d'autre. Et si vous avez l'homme, celui qui s'est nommé lui-même le Fils de l'homme, si vous l'avez, bien-aimé, vous avez tout ce qu'est cet homme, Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ainsi sa parole. Amen. Amen.